Je suis féministe sur Radio B. Je suis féministe, trois mots que l'on met du temps à prononcer. Parce que finalement, les dire, c'est révéler quelque chose de nous. Ou parce que tout simplement, ils ne nous étaient pas encore apparus. La femme que je rencontre aujourd'hui est passée par d'autres chemins, d'autres luttes avant de rencontrer ce combat. Échange avec Carole Gerbeau, militante féministe et l'une des fondatrices du collectif Mouvement d'Elle. Je suis féministe. La question traditionnelle pour démarrer cette interview, est-ce que c'est facile pour vous de dire « je suis féministe » ?
Oui, aujourd'hui c'est devenu très facile. C'était pas du tout le cas au tout début.
Pourquoi ?
Bien parce que ça venait principalement de moi, c'est-à-dire que je suis devenue féministe plutôt en rencontrant des militants, on va dire, engagés politiquement, et qui, c'est un peu par eux que j'ai compris que le féminisme était, il était nécessaire de faire vivre le féminisme, alors qu'à l'époque, moi quand j'étais jeune, je pensais qu'on avait tout acquis, que les choses étaient très avancées pour les droits des femmes, et c'était pas une question pour moi.
Et justement, c'est quoi pour vous le féminisme ? Comment vous le définiriez ?
Alors, moi, je dirais plutôt qu'il y a des féminismes. Parce que le féminisme, maintenant, on a un peu de recul pour penser qu'il ne peut pas être un peu unique. Enfin, le, c'est unique. Parce qu'il y a beaucoup de combats qui se sont développés. Il y a plusieurs... il y a eu plusieurs vagues de féminisme. Et du coup, aujourd'hui... Bon, par exemple, moi, je fais partie des gens qui ont plutôt discuté entre les fameuses féministes matérialistes, les féministes qui s'appelaient entre guillemets lutte de classe. Il y avait des débats comme ça qui étaient plutôt dans les années 70-80. Alors moi, je suis plus jeune que ça, donc j'ai réépousé tous ces débats dans les années 90, quand on a monté Mouvement d'Elle, par exemple, à Bourg-en-Bresse. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut des féminismes, parce que l'oppression des femmes, elle est d'abord multiple, et dans chaque, vous avez quand même déjà une exploitation capitaliste qui exploite l'ensemble des hommes et femmes. Donc là, il y en a. Bon, c'est pour ça que j'étais plutôt dans la fibre lutte de classe. Mais après, vous avez à l'intérieur des migrants, par exemple, quand vous militez pour l'antiracisme et que vous soutenez les migrants, vous vous apercevez qu'il faut aussi, à l'intérieur de ça, se battre pour le droit des femmes qui arrivent avec leurs compagnons, de la même manière que. Il y a les mouvements blacks qui se sont mis en place et puis aussi tout ce qui a été dit sur le féminisme blanc, c'est-à-dire à un moment donné on est parti la tête dans le guidon peut-être pour défendre pour obtenir le plus d'égalité possible sans penser qu'il y a des particularités.
À quand remontent vos premiers souvenirs de questionnement autour de votre genre ?
Alors moi, il est tardif, hein, parce que je vous dis, il est plutôt. Moi, j'ai démarré, j'ai plutôt milité quand j'avais entre 16 et 18 ans contre le racisme. Militer pour le droit des femmes n'était pas une question pour moi, et ça l'a été plutôt autour de mes 30 ans. À partir du moment où j'ai rencontré des gens qui m'expliquaient que finalement, monter partout où c'était possible, alors que ce soit dans des syndicats, dans des entreprises ou dans des quartiers, monter des groupes non mixtes de femmes, c'était très important, parce que même parmi les gens qui nous entouraient à ce moment-là, et donc les militants, la question de l'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas toujours à l'ordre du jour. Et que les groupes non mixtes peuvent servir à ça, c'est-à-dire à se retrouver entre femmes et à pouvoir avancer plus aisément. Et j'ai été convaincue de ça dès que nous l'avons mis en place, par exemple avec Mouvement d'Elle à Bourg, mais j'avais 30 ans.
Mais avant ça, aucun questionnement. Vous avez pourtant vécu dans une famille entourée de garçons, je crois. Vous avez
des frères. Oui, c'est ça. J'ai 6 frères, moi. Je suis toute seule comme fille. Ben, peut-être que c'est à cause de ça, je ne sais pas. Mais chez nous, il y avait quand même 7 enfants et donc 6 garçons et donc non, je n'ai pas été Cosette, je n'ai pas été exploitée. Les garçons devaient faire autant et même plus, je pense, parce que j'ai été élevée par quelqu'un qui était très une femme qui était très féministe sans le savoir d'ailleurs. Et ses fils à elle sont devenus. Mes frères à moi étaient un peu plus machos, mes vrais frères à moi étaient plus machos, mais dans la vie quotidienne, nous devions tout faire. Donc, en tout cas, quand il y avait une petite illégalité, c'est vrai qu'il y avait quand même des fois où j'avais envie de dire non, c'est pas à moi de faire la vaisselle, mais j'étais toujours soutenue, donc je ne voyais pas, j'avais l'impression que ce que je disais était universel.
Dans les années 70, en 76, vous aviez 18 ans, des femmes avaient lutté avant vous. Est-ce que vous vous souvenez de cette époque et est-ce que ça vous avait marqué ?
Oui, alors je vivais quand même dans un milieu un tout petit peu politisé et du coup le mouvement des femmes je connaissais quand même, et c'est pour ça que bon, quand j'ai dit en 76, la loi sur l'avortement est passée, très vite les pilules seront accessibles. En 82, il y a la loi qui rend l'avortement remboursable par la sécurité sociale. Donc, à l'époque, on est au tout début du chômage qui s'amplifie, mais on n'en est qu'au début. Donc moi, en sortant du lycée, j'ai l'impression que tout nous est ouvert, qu'on peut aller travailler où on veut, on peut aussi s'arrêter de travailler, on peut rencontrer qui on veut. La liberté sexuelle à l'époque, elle est là parce qu'elle a été quand même à l'ordre du jour plus dans les années 70 et qu'on est quand même qu'en 76. Donc à ce moment-là, j'avais l'impression, franchement, qu'on n'y avait pas beaucoup de soucis.
Donc après arrive le militantisme. Vous l'avez dit, plutôt en faveur de la lutte contre le racisme. Comment ça s'est passé, ce moment où vous vous êtes dit « allez, j'entre dans ces groupes non mixtes » et de quoi vous parliez à l'époque ?
Alors, quand on a créé Mouvement d'Aile, on l'a tout de suite créé de façon non mixte. Alors,
ça, c'était en 92, hein.
Voilà, en 1992, oui, voilà, c'est le moment où, après de nombreuses discussions avec des militants, pas forcément engagés que sur le droit des femmes, d'ailleurs, mais qui, effectivement, avaient porté ces discussions sur les mouvements non mixtes, je finis par être convaincue, et du coup, on lance, avec 3-4 copines sur Bourg-en-Bresse, ce fameux Mouvement d'Aile. C'est une d'entre elles qui aura eu l'idée du nom. Tout de suite, on dit, voilà, on essaye localement de faire savoir que des femmes sont organisées de façon non mixte, mais en même temps, on a envie d'être au milieu de plein d'autres causes, et donc on rentre immédiatement dans le fameux collectif pour l'égalité des droits et contre le racisme qui existait à l'époque. Et ce collectif, il était très très tourné sur la lutte antiraciste, mais il réunissait plein de syndicats, partis politiques, associations et individus. Et donc, quand on a demandé à rentrer en tant que Mouvement d'Aile, ils l'ont accepté tout de suite, parce que une des parties de l'appellation du collectif, c'était pour l'égalité des droits. L'autre chose, c'est qu'on s'était dit, on est local, on est à Bourg-en-Bresse, et on essaye de faire discuter à Bourg-en-Bresse de ce qui est national, international, mondial. Et donc, on organisait très souvent l'action du Mouvement d'Aile, principalement, ça a été d'organiser des débats publics, des conférences débats sur des sujets très multiples. Alors, il y a eu beaucoup l'avortement, mais par exemple, il y a eu une fois, on a tenu à faire venir des gens qui viennent parler, des femmes qui viennent parler de ce qui se passait en Pologne, puisqu'à l'époque, en Pologne, après les années 80, l'avortement ne va plus être légal, puisque il y aura une grosse modification de la gouvernance polonaise. On a fait venir beaucoup de femmes aussi concernant les droits des Algériennes et les luttes des Algériennes. Et puis, bien sûr, on a organisé pas mal de débats autour du droit à l'avortement, puisque à l'époque, une des prises de conscience qui va faire partie de tout ce qu'on a envie de discuter, c'est que les centres d'interruption volontaire de grossesse perdent leurs moyens et sont les parents pauvres des hôpitaux. Et c'est là qu'on se dit, ah ben non, finalement, tout ce qu'on se disait était tout à fait erroné. Et on va beaucoup bosser là-dessus. Et surtout qu'en 1995, c'est-à-dire 3 ans après la création de Mouvement d'Aile, il va y avoir les fameuses, entre guillemets, attaques des CIVG par les groupes anti-avortement. Et il y aura un procès à Bourg-en-Bresse de ces personnes qui avaient mis ça en place. Et nous, Mouvement d'Aile, on va organiser encore une fois, comme un peu à notre habitude, un débat public. Mais là, on va être 150 personnes Donc on va être beaucoup plus nombreuses que ce qu'on a l'habitude de réunir, parce que là, évidemment, c'est arrivé à Bourg-en-Bresse et que c'est en lien complètement avec ce qui se passe ailleurs et avec, avec les attaques permanentes qui sont construites contre le droit à l'IVG. Voilà, et c'est vrai qu'entre 2003 et 2008, où on a dissous le mouvement, on travaillait beaucoup plus sur la question des femmes migrantes et de comment elles étaient complètement oubliées, y compris par des militants. Donc là, on avait fait intervenir le fameux RACHFIR, qui est un réseau parisien qui réunit toutes les femmes qui travaillent autour du droit des femmes migrantes et des demandeurs d'asile et des demandeuses d'asile.
Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de féminisme intersectionnel, hein, ce que vous disiez quand vous définissiez le féminisme. Finalement, vous étiez déjà dans cette idée-là dans les années 90. En vous écoutant, j'ai l'impression que les luttes ont finalement pas trop changé. Vous parliez de la Pologne. Aujourd'hui, on est aussi en train de revenir sur l'avortement. Qu'est-ce que vous pensez? Quel regard vous portez sur le combat des femmes d'aujourd'hui?
Le combat des femmes d'aujourd'hui, il est indispensable, parce que finalement, on se rend bien compte que tous les acquis sont toujours susceptibles de reculer et même de disparaître. Donc, d'une part, c'est pour ça que je disais, c'est plus du tout une. La première question, c'est plus du tout. Pour moi, c'est plus du tout difficile de dire que je suis féministe, parce qu'il me semble, moi, que. Aujourd'hui, une plus grande partie de la population, et donc masculine, peut être d'accord avec ça. C'est-à-dire que peut être d'accord avec le fait que le droit des femmes a nécessité des luttes, qu'elles ont été repérées dans l'histoire, qu'elles ont fait gagner des combats, mais qu'en même temps, elles sont attaquées tout le temps. Et ce qu'on disait toujours à l'époque, c'est que plus les droits des femmes sont attaqués, plus les droits de tout le monde sont attaqués. Et c'était l'argument qu'on avait à l'époque pour dire il faut nous soutenir parce que on a l'impression qu'on défend que les femmes, mais quand on défend le droit des femmes, c'est aussi qu'on défend le droit de tout le monde et que l'égalité, finalement l'égalité des droits, c'est respecter les droits de tout le monde. Aujourd'hui, je trouve que c'est l'évidence. C'est-à-dire qu'en même temps que reculent les droits des femmes, on s'aperçoit bien quand même que reculent les libertés de tous. C'est une troisième vague finalement de féminisme. Ce militantisme intersectionnel, moi je suis pour, mais finalement, quand vous militez dans une petite ville comme la nôtre et que vous mettez en place un mouvement tel que celui dont j'ai parlé, moi j'ai toujours cette idée de dire on ne peut pas couper non plus tout. C'est-à-dire que normalement, entre guillemets, si on avait assez de force, si on arrivait à convaincre encore plus, on devrait avoir ces luttes dans un même... Enfin, on devrait les mener toutes ensemble et montrer qu'elles ont tout le temps un lien. Sauf que la force du militantisme intersectionnel quand même, je suis bien obligée de le noter, c'est de porter l'éclairage sur des choses qu'on a tendance des fois à oublier.
Et que c'est un tout en fait. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'impression aussi que les féministes rentrent un petit peu plus dans la sphère de l'intime. On a eu tous ces vagues de oser le féminisme qui faisaient des tags de clitoris un peu partout dans les villes. On rentre vraiment dans la sphère du couple, on questionne avec la charge mentale le rôle du conjoint. Est-ce que ça rentre aussi dans cette idée d'un combat global, ou est-ce que c'est pas recentrer une lutte sur de l'individuel?
C'est ça que je voulais dire tout à l'heure quand je dis il faudrait dans l'idéal, il faudrait que ces petites sections se regroupent. Parce que sinon, c'est le risque. Le risque, c'est de tomber dans quelque chose qui devient tout d'un coup la vie individuelle chez soi. Mais ceci dit, rappelons-nous quand même que dans les années 70, on a beaucoup fait sortir l'intime sur la place publique. Parce que une des revendications, alors là pour le coup des féministes matérialistes, celle qui était emmenée par Christine Delphi par exemple, mais plein d'autres, c'était de dire il y a une exploitation des femmes, mais il y a une oppression des femmes, et l'oppression des femmes c'est plus politique, mais l'exploitation elle est économique, et à l'époque, l'exploitation elle était très très importante à l'intérieur de la vie intime, parce que c'était les tâches ménagères, les femmes travaillaient moins, elles étaient exploitées, elles fournissaient un travail gratuit, et ça a été une théorisation de ce travail domestique qui est beaucoup sorti dans les années 70 et qui, pour le coup, là, avait quelque chose d'universel et de collectif. Donc, oui, ces histoires de osons le féminisme, et puis, ces analyses qui pourraient dire attention, on rentre dans l'individualisme. Encore une fois, je ne pense pas. Il faut qu'elles existent et puis qu'elles soient en lien avec d'autres formes de lutte.
Aujourd'hui, ce serait quoi votre combat à vous en tant que féministe ?
Sans rester, encore une fois, complètement bornée, entre guillemets, sur la question lutte de classe, je pense que le combat, c'est que plus on peut casser ce système dans lequel on vit, qui montre toutes les inégalités. Alors aujourd'hui, on est en plein coronavirus, donc on s'aperçoit que les inégalités, elles sont criantes parce qu'on est face à une crise qu'on ne maîtrise pas, donc, et que même le capitalisme, là, il est obligé de réfléchir un peu plus longtemps que d'habitude. Moi, je suis toujours sur cette question-là, c'est-à-dire que je pense que ce système-là cassé, c'est une première chose. Mais j'ai toujours été d'accord avec le reste des féministes que ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'après, il faut continuer. Il y aura toujours une lutte parce que l'égalité des droits, c'est quand même très souvent un combat, quoi. Donc ce combat-là, il continuera avec des intersections et des sections. Mais pour moi, je suis toujours plutôt engagée de façon anticapitaliste et à l'intérieur de cette lutte, je mets dedans la lutte pour les droits des femmes. Mais je sais que ça ne suffit pas.
Carole Gerbeau, merci.
Merci à vous.
Est-ce qu'on t'a déjà dit que tes yeux étaient magnifiques et ton sourire ? C'est dangereux pour les belles femmes ici. Nancy court à ma rencontre. La pré-adolescente boudeuse et boulotte est en train de se transformer en ravissante jeune fille. Toute jolie avec ses cheveux remontés, ses longues boucles d'oreilles, son corps qui s'allonge et s'affine, ses grands yeux qu'elle a commencé à maquiller. Ses 13 ans lui vont si bien à elle et à ses coquettes amies et je me demande combien de temps encore il vous reste, combien de temps ? Combien de temps avant qu'un chum trop entreprenant ne vous impose l'heure de votre première fois, si ce n'est pas déjà fait ? Combien de temps avant de tomber enceinte et ne jamais oser penser à l'avortement ? Même pour une enfant de 13 ans, même pour une victime de viol ou d'inceste. Tu le sais, toi, Eva, grand-mère à 40 ans, ton fils Elijah et la jolie Mahata, la jolie et minuscule Mahata, 16 ans et un bébé dans le capuchon, 16 ans et caissière à la coop, le bébé dans le landau à côté de la caisse. Mais tu étais si fière, Eva. Vous autres, vous aimez les enfants plus que tout au monde. Vous les aimez mal, souvent, mais vous les aimez. Combien de temps avant que votre beauté éblouissante ne soit ravagée par la dureté de la vie nordique ? Combien de temps avant que les nombreuses grossesses et les coca enfilés à la chaîne ne vous fassent prendre une cinquantaine de livres ? Combien de temps avant que l'alcool, la cigarette et les nuits blanches ne rident prématurément vos visages ? Que les dizaines de sortes de bonbons disponibles à la COP n'aient raison de la plupart de vos dents ? Combien de temps avant d'avoir 25 ans et d'en paraître 40 ? Des fois c'est très court, des fois vous atteignez le summum de votre beauté à 13 ans et c'est terminé à 14. Des fois vous êtes trop dur pour vous-même ou alors c'est la vie qui ne vous fait pas de cadeaux. Des fois 14 ans est déjà fané les jolies roses du Nord. Il y a Julia, superbe l'été, Julia comme une future reine, mais c'est fini maintenant. Julia, le visage boursouflé par l'alcool et la drogue, le corps alourdi par toutes ces cochonneries que la COP vend moins cher que les légumes, les yeux éteints par je ne sais quelle tristesse. Oh Julia. Julia traîne ses pas lourds dans les rues de Saluit, elle a laissé l'école et ne fout rien de ses journées, sauf promener son désespoir, son renoncement au monde, parfois seule, parfois avec d'autres qui partagent la même misère. Je croise souvent leur chemin et les fillettes qui me suivent me chuchotent à l'oreille en les pointant du doigt. Les drop-out. Elles pourraient me chuchoter les pestiférés ou les sidéens sur le même ton, le ton des calamités, le ton de la honte et du mépris. Et pourtant, vous aussi, mes pauvres petites chéries, vous risquez fort de connaître le même sort dans votre école qui ne sait pas comment vous garder entre ses murs. Un extrait de Mirlit de Juliana Léveillé-Trudel, une autrice québécoise, sur la musique de l'artiste autochtone, également québécoise, Elie Sapi. Je vous quitte en leur compagnie. À bientôt.